À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Tchad, une marche pacifique a été violemment réprimée par la police à N'Djamena. Réunion du G5 Sahel à Niamey pour tenter de boucler le financement de la force militaire conjointe. La fièvre de Lassa fait 31 morts au Nigeria. La Côte d'Ivoire prend des mesures préventives. Et puis la Maison-Blanche a 5 jours pour décider s'il faut ou non publier le mémorandum des démocrates à la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Une nouvelle conférence de financement de la force conjointe du G5 Sahel va se tenir le 23 février prochain à Bruxelles. C'est la principale conclusion issue du sommet tenu aujourd'hui à Niamey par les chefs d'État des pays membres de la force conjointe pour lutter contre le terrorisme. À Niamey, le correspondant de VOA Afrique, Abdulrazak Idrissa.
Près d'une année après son lancement, le financement de la force conjointe du G5 Sahel qui doit lutter contre le terrorisme et les crimes organisés dans cette région n'est toujours pas bouclé malgré la création récente d'un fonds fiduciaire pour accueillir les contributions des partenaires. Les 500 millions de dollars américains nécessaires pour l'opérationnalisation de cette force tardent encore à être mobilisés par les 5 pays. C'est pourquoi leurs chefs ont décidé à ce sommet ordinaire de Niamey d'organiser une conférence à Bruxelles le 23 février prochain pour demander à d'autres partenaires de mettre la main à la poche, l'Union européenne, la France, les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite ayant déjà fait des annonces de soutien financier. La conférence de Bruxelles sera le premier acte de la présidence nigérienne de cette organisation puisqu'à ce sommet de Niamey, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a passé le flambeau à Issoufou Mahamadou du Niger pour une année à la tête du G5 Sahel. A noter aussi que toujours à l'occasion de ce sommet de Niamey, l'ancien patron de la MONUSCO, Mamane Sambo Sidikou, est nommé secrétaire permanent du G5 Sahel. Il remplace un autre Nigérien, Mohamed Najim. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Tchad, une marche pacifique de 4 regroupements des partis politiques de l'opposition a été violemment réprimée à N'Djamena. Le quartier général de ce regroupement dans le 7e arrondissement a été pris d'assaut par la police nationale. André Komajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, fait le point.
Une véritable démonstration de force ce mardi au quartier général du porte-parole des partis politiques de l'opposition initiateur de cette marche, Diemé Clément Bagaou, qui voulait regrouper autour de lui quelques chefs des partis politiques et des militants pour marcher en direction de la commune du dit arrondissement. Ils ont été très vite dispersés après quelques pas par les forces de l'ordre avec du gaz lacrymogène. Les témoignages recueillis sur les lieux font état de 5 personnes blessées et une dizaine d'arrestations. Mise en garde sévère du ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mohamed Bachir menace de sanctionner toute organisation qui tenterait de narguer l'autorité de l'État.
Désormais, tout parti politique ou association de la société civile qui tenterait de défier une interdiction quelconque de marche verra ses activités purement et simplement suspendues conformément à la loi et la procédure de sa dissolution sera immédiatement engagée.
Ahmad Mohamed Bachir informe à qui veut l'entendre qu'aucune manifestation pacifique ne sera autorisée dans cette situation de crise sociale et sécuritaire. D'autres manifestations ont été violemment dispersées à Sar dans le sud du Tchad par des militaires. Aucun bilan n'a été fourni pour le moment. André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
La fièvre hémorragique Lassa a fait 31 morts au Nigeria depuis le début de l'année. Endémique au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, cette fièvre hémorragique est grave dans 20% des cas. Les autorités ivoiriennes ont pris des mesures préventives. Raymonde Goudou Kofi, la ministre de la Santé, incite toute personne présentant des signes de forte fièvre de se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Sanction de la CEDEAO contre la Guinée-Bissau, après une série de mises en garde, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décrété des sanctions, dont le gel des comptes bancaires, contre 19 personnalités bissau-guinéennes, dont des proches du président José Mario Vaz, et ce pour non-respect d'un accord de sortie de la crise politique. Opération justice fiscale au Gabon, la Direction générale des impôts lance un audit des contreparties des exonérations fiscales accordées à tous les opérateurs concernés ces dernières années et afin qu'ils apportent la preuve de la réalisation de ces contreparties. Le Gabon a octroyé des avantages fiscaux à diverses entreprises ces dernières années, comme le groupe singapourien Olam, qui devait en contrepartie développer deux zones économiques spéciales dans les banlieues de Libreville et de Port-Gentil. À Djouba, plusieurs centaines de manifestants ont défilé aujourd'hui pour protester contre la décision des États-Unis de restreindre les transferts d'armes vers le Soudan du Sud. Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils dénoncent, une tactique pour affaiblir le gouvernement du président Salva Kiir. En Somalie, un tribunal militaire a condamné à la peine de mort Hassan Adan Isaac, un homme de 23 ans reconnu coupable d'avoir organisé l'attentat du 14 octobre 2017 à Mogadiscio. Il y a eu plus de 500 morts. Cet attentat, qui n'a pas été revendiqué, a été le plus meurtrier dans l'histoire de la Somalie. En Afrique du Sud, le discours à la nation du président Jacob Zuma est reporté alors que les appels à sa démission se multiplient. Son parti, l'ANC, a convoqué demain sa plus haute instance de décision pour discuter de cette transition politique. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
Le discours annuel du président sud-africain Jacob Zuma, initialement prévu jeudi devant le Parlement, a été reporté selon une dirigeante de l'ANC, Bale Kambete, craignant que son allocution ne soit fortement perturbée. Les dirigeants de l'ANC, qui se sont réunis en urgence hier, ont convoqué pour demain mercredi le comité national exécutif pour tenter de trancher sur le départ anticipé du président Zuma. Cette instance, qui a tous les pouvoirs, même celui de destituer le président, rendra sa décision publique. Dimanche, le comité de travail de l'ANC a rencontré M. Zuma, qui aurait refusé de démissionner. Des partisans du nouveau patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, font pression pour obtenir au plus vite son départ. La fondation Nelson Mandela aussi demande au président sud-africain de démissionner, mais ses partisans estiment qu'il doit terminer son second mandat, qui expire en 2019.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la commission du renseignement de la Chambre des représentants a voté hier pour la publication d'une note confidentielle des démocrates. Ce document rejette les accusations du président Donald Trump et les accusations des élus républicains contre le FBI, la police fédérale. Faisons tout de suite le point sur ce dossier complexe avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Donald Trump dispose désormais de 5 jours pour examiner la demande pour rendre public le document démocrate. Cette requête fait suite à une démarche similaire de la part des républicains pour déclassifier leur propre note confidentielle. Le mémo Noon a été déclassifié vendredi par le président. Il porte sur ce que les républicains considèrent comme un abus de pouvoir du FBI qui aurait entrepris la procédure secrète de mise sur écoute à partir d'octobre 2016 de Carter Page, ex-conseiller du candidat Trump. Les républicains accusent la police fédérale de n'avoir pas indiqué au juge autorisant ces écoutes que la campagne de Hillary Clinton a cofinancé le dossier de la mise sur écoute de M. Page. Les démocrates craignent que ce mémo ne serve de prétexte pour envoyer des responsables de la police fédérale et du ministère de la Justice, ce qui pourrait entraver l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Ce dernier travaille sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 et sur une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump.
En Irak, les autorités de la région autonome kurde ont annoncé détenir quelques 4000 djihadistes du groupe État islamique, dont des étrangers. Daesh s'était emparé de vastes pans de territoire en Irak lors d'une offensive éclair en 2014, avant d'en être progressivement chassé par les troupes pro-gouvernementales aidées des forces kurdes et de la coalition internationale sous commandement américain. En Israël, des dizaines de camions ont bloqué l'entrée à Gaza pour protester contre la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Soumise à un rigoureux blocus israélien et à la fermeture quasiment permanente de la frontière égyptienne, la bande de Gaza subit une crise humanitaire chronique. Et puis en France, 4 ans de prison ont été requis aujourd'hui contre Jawad Benaoud, jugé à Paris pour avoir logé les auteurs des attentats qui avaient fait 130 morts le 13 novembre 2015 à Paris. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire va allouer plus de 7 milliards de dollars à l'éducation entre 2018 et 2020. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly l'a annoncé à Dakar pendant la 3e conférence de financement du partenariat mondial. Cette rencontre a levé des fonds pour soutenir l'éducation de 870 millions d'enfants dans 89 pays qui englobent 78% des enfants non scolarisés dans le monde. L'industrie minière sud-africaine mise sur un changement politique rapide à la tête du pays pour obtenir des réformes capables de relancer durablement la confiance des investisseurs en son avenir. Le patron de la Chambre sud-africaine des mines, Roger Baxter, a dit hier au Cap qu'il est possible d'envisager l'avenir avec un optimisme raisonnable sans s'inquiéter. Le chiffre d'affaires des compagnies minières a progressé de 13% avec 43 milliards de rand. Le secteur emploie encore 460 000 salariés. Le déficit commercial américain a bondi de plus de 12% à 566 milliards de dollars en 2017. C'est la plus forte hausse depuis 2009-2010. Outre les services, le solde des échanges avec le reste du monde a atteint un déficit de plus de 796 milliards. Il a aussi atteint l'an passé un niveau record avec la Chine à plus de 375 milliards. Parallèlement, les États-Unis ont augmenté leurs importations de biens en provenance de 47 pays et leurs exportations à destination de 29 pays.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
L'ancien sélectionneur de l'Algérie réclame le paiement de son salaire.
Et oui, l'Espagnol Lucas Alcaraz, limogé en octobre dernier après 6 mois de contrat, a saisi la FIFA pour obtenir le paiement de son salaire jusqu'à l'expiration de celui-ci en juillet 2019. On se souvient de cette campagne désastreuse de qualification pour le Mondial 2018. 3 défaites en 3 matchs. La Fédération algérienne de football avait alors mis fin aux fonctions de Lucas Alcaraz. C'était le 18 octobre dernier. Les négociations entre la Fédération et Alcaraz sur le montant des indemnités de rupture de contrat pour lui et ses 2 adjoints n'ont pas abouti. Le contrat de Lucas Alcaraz courait jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. En conséquence, le technicien espagnol réclame à la Fédération algérienne de football 21 mois de salaire, soit 1 260 000 euros, selon le quotidien algérien Liberté. On rappelle que le sélectionneur espagnol a été remplacé par l'ancien international algérien Rabah Madjer.
Les Pays-Bas ont un nouveau sélectionneur.
Et oui, Ronald Koeman, 54 ans, il a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas qui aura pour mission de qualifier pour l'Euro 2020. Le Néerlandais, ancien international, 78 sélections et vainqueur en tant que joueur de l'Euro 88, a signé un contrat de 4 ans. Il succède à son compatriote Dick Advocaat qui n'avait pas réussi à qualifier l'équipe néerlandaise pour le Mondial 2018. On rappelle qu'en tant qu'entraîneur, Ronald Koeman a été l'entraîneur principal au Vitesse Arnhem, mais également l'Ajax d'Amsterdam, le Benfica, le PSV Eindhoven, Valence ou encore Feyenoord. Il avait aussi été l'adjoint de Guus Hiddink en sélection et de Luis Van Gaal au FC Barcelone.
Et bien sûr, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Washington carbure à plein régime, victoire 111 à 102 contre Indiana. Autre équipe en forme, Utah, qui a largement battu la Nouvelle-Orléans, 133 à 109. Ailleurs, Détroit a battu Portland, 111 à 91. Enfin, Dirk Nowitzki est devenu le sixième joueur de l'histoire à disputer 50 000 minutes en NBA. Mais Dallas n'a pas pu lui offrir la victoire pour fêter ce bel accomplissement. Les Mavericks sont derniers de la conférence Ouest. Ils ont été battus par les Clippers de Los Angeles, 101 à 104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Les États-Unis ont demandé au Cameroun de respecter les droits humains des 47 séparatistes anglophones, parmi lesquels leur leader, Sissiku Ayuk Tabe, est extradé du Nigeria fin janvier. Brian Neubert, porte-parole francophone du département d'État, a expliqué à Anastasie Toudiech la position américaine sur ce dossier.
Ces 47 Camerounais sont allés au Nigeria. Ils ont essayé dans des demandes d'asile au Nigeria. Donc, tout d'abord, les États-Unis exhortent le Cameroun et le Nigeria à s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, c'est-à-dire de s'abstenir de renvoyer de force les demandeurs d'asile dans le pays d'origine. Tout simplement, ça, c'est notre demande.
Le pouvoir camerounais considère désormais Sissiku Ayuk Tabe, chef de file du mouvement séparatiste de l'Ambazonie, et ses hommes comme des terroristes et donc qu'ils doivent répondre de leurs crimes devant la justice du Cameroun. Quelle est la position du département d'État sur cette question précisément?
Donc ça, c'est une question de la loi camerounaise. Donc c'est tout à fait normal qu'il y aura une procédure. Mais pour les États-Unis, ce que nous insistons, c'est que ça soit ouvert dans un état de droit.
La crise dans les zones anglophones s'est lentement muée en conflit armé, avec 22 soldats et policiers tués depuis novembre. Pensez-vous que la résolution du conflit peut être militaire?
J'imagine que non. Si nous parlons d'une solution, nous espérons que ça ne sera pas par la violence. Tout d'abord, j'aimerais m'adresser nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées dans cette violence. Les États-Unis condamnent les violences dans cette situation. Et nous imaginons que les autorités camerounaises vont chercher une solution qui n'est pas uniquement militaire, mais qui est politique, qui est dans un état de droit pour résoudre cette crise dans la région anglophone.
Comment les États-Unis réagiraient-ils en cas de procès qu'ils ne jugeraient pas équitable?
Je ne peux pas imaginer, dans une situation hypothétique, notre réaction. Mais nous espérons bien que ça va continuer dans un contexte qui est dans l'état de droit et qui est transparent pour ces 47 Camerounais et pour d'autres détenus.
Brian Neubert, porte-parole francophone du département d'État.
Bonsoir, c'est Abdelrahman Dia. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h GMT sur VOA Afrique pour parler des mutilations génitales féminines sur votre émission. À votre avis, selon les Nations Unies, 200 millions de femmes et de jeunes filles dans le monde ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Les approches des gouvernants et des ONG sont-elles appropriées envers les communautés qui pratiquent les MGF? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
La Cour suprême du Mali a condamné l'État à payer 25 milliards de francs CFA à une compagnie qui avait fourni des équipements militaires à l'armée. Une affaire qui avait éclaboussé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2014. Le FMI avait réagi en suspendant les décaissements à l'État malien, accuse dans cette affaire de n'avoir pas suivi les règles dans la procédure
d'attribution des marchés publics. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Bamako le journaliste Alexis Kalambi.
Ça fait un grand malaise parce que c'est un dossier qui n'avait jamais été clos, qui avait déjà suscité beaucoup d'encre et de salive et qui, au moment où il se faisait oublier, revient au devant de la scène. Et de cette façon-là, je crois que ça va contribuer à sérieusement assombrir le bilan du président.
On est à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que cela peut jouer un peu contre le président Ibrahim Boubacar Keïta?
Oui, bien sûr que ça va compter en tout cas. Parce que si vous avez suivi tout, ces détracteurs parlent des affaires. Et ça fait partie de ce dossier. D'abord, les gens vous disent, oui, le marché du gros star. Bien malin, qui pourrait vous dire exactement à combien ça s'élève, qu'est-ce qui a été livré, qu'est-ce qui n'a pas été fait et quelle est la participation des banques dedans. Je pense que c'est vraiment un dossier qui est relancé, mais un dossier qui va vraiment faire de beaucoup.
Ça relance aussi le débat sur l'attribution des marchés, sur le gré à gré, et donc, du coup, dans la lutte contre la corruption.
Mais à tous les niveaux, parce que ce dossier est l'exemple typique du manque de transparence et surtout des conséquences de cette manque de transparence. Parce que, je le disais tout à l'heure, oui, il y a eu tellement de supputations. Sur ce dossier, comment ça a été monté, quelle est la part des banques, quelle est la part des politiques concrètement, qu'est-ce qui a été investi dans l'armement. Ça, c'est toutes les questions qui n'ont jamais été répondues. Ça, c'est tous les aspects qui sont restés nébuleux.
Et selon votre analyse, vous pensez que l'État va tout simplement payer les 25 milliards ou va tenter de faire appel?
En tout état de cause, aujourd'hui, là où on est, l'État ne pourra pas payer. Alors, si Ibeka rempile, puisque visiblement il est candidat, il trouvera un moyen de régler à l'amiable. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient, il est évident qu'il ne payera pas et qu'il va continuer la procédure, et ce qui va faire que les dissous vont surgir et qu'on saura exactement qui est mêlé et jusqu'à quel niveau.
Le journaliste Alexis Kalambi, il était joint à Bamako.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Afrique du Sud, la présidente du Parlement, Baleka Mbete, a annoncé le report du discours du président Jacob Zuma sur l'état de la nation, discours qui était prévu jeudi. La direction de l'ANC a convoqué pour mercredi la Commission nationale exécutive, principal organe de décision et seul habilité à faire partir le président. Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud l'analyste politique Achille Membe.
Il est fort possible que ce mercredi dans la nuit, l'ANC décide effectivement de mettre fin à la présence de M. Zuma à la présidence de la République sud-africaine.
Mais le comité de travail n'a pas le pouvoir de le destituer.
C'est la raison pour laquelle justement le Conseil exécutif national est convoqué pour mercredi dans la soirée. De cette réunion du Conseil national exécutif, on risque de sortir justement la décision de congédier M. Zuma.
Est-ce que Ramaphosa dispose d'une majorité suffisante pour justement le faire partir?
Il dispose, Ramaphosa, d'une majorité relative, telle qu'elle est sortie justement des dernières élections lors du congrès de l'ANC. L'hypothèse est que entre décembre et début février, un travail de fond a été effectué pour faire croître cette majorité. Et donc, le pronostic est que la majorité des membres de ce conseil suivra les instructions de M. Ramaphosa et déposera M. Zuma. faute de quoi, disons, le Parlement prendra le relais et votera une motion de non-confiance qui fera chuter le gouvernement.
Comment vous expliquez la résistance de M. Zuma? Il a refusé de démissionner lors de la réunion de dimanche soir.
M. Zuma a peur d'aller en prison. M. Zuma, dans les conditions actuelles, risque de sortir du palais présidentiel pour aller tout droit devant les tribunaux. Et donc, j'imagine qu'il voudrait obtenir de l'administration M. Ramaphosa ou de ceux qu'il soutient la certitude qu'il ne sera pas poursuivi. Et donc, j'imagine que dans les négociations en coulisses qui ont lieu, M. Zuma essaye d'obtenir l'immunité par anticipation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble de sa famille. Mais la stratégie qu'il poursuit est très risquée, à la fois pour lui-même, pour l'ANC et pour l'Afrique du Sud en général. L'ANC risque d'en sortir plus divisé qu'auparavant, et pour un pays qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être gouverné et qui a besoin de corriger la mauvaise direction qu'il a suivie au cours des 10 dernières années. Mais encore faut-il souligner que dans cette affaire, l'ANC n'est pas le seul acteur. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas confronté à bras-le-corps sa crise interne a fait en sorte que la gestion de cette affaire maintenant lui échappe. Ou en tout cas, ils ne sont pas les seuls protagonistes. Les partis de l'opposition sont aux aguets, la société civile également, les tribunaux et évidemment les milieux d'affaires.
C'était l'analyste politique Achille Membe. Il était joint à Johannesburg.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La violence a éclaté au Burundi en 2015 après l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de poursuivre un troisième mandat. Depuis lors, plus de 400 000 Burundais se sont réfugiés dans les régions voisines, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo. Alors que beaucoup ont tout perdu, certains gardent espoir et font en sorte de le partager avec les autres. Nous allons au Rwanda pour apprendre comment les réfugiés burundais tirent le meilleur de ce qui est clairement une situation difficile. Écoutons le reportage d'Eric Murunzini.
Au Rwanda, plus de 85 000 réfugiés burundais vivent dans des villes comme Kigali et Mahama. Certains Burundais ont décidé de prendre les choses en main malgré les obstacles. Marguerite Barankitse est la fondatrice de la Maison Shalom, une ONG internationale qui soutient les réfugiés burundais au Rwanda.
J'ai créé la Maison Shalom en 1993. Mon histoire officielle par un refus de la haine fratricide.
La Maison Shalom apporte son soutien aux jeunes réfugiés burundais en matière d'éducation, de soutien socio-économique, de soutien psychosocial et culturel. La Maison Shalom a ouvert un centre communautaire à Kigali pour permettre aux réfugiés de vivre une vie digne en exil et pour préparer un retour constructif au Burundi. L'organisation mène des activités de soutien pour aider les réfugiés à surmonter les défis de la vie en exil.
Je suis venue au Rwanda. Je me suis dit le même message que j'avais lancé en 1993. Je voulais le créer ici et j'ai créé Oasis of Peace, Maison Shalom. Un lieu de guérison de mémoire. J'ai pris les jeunes, je leur ai dit, personne ne peut arrêter l'amour. Nous allons retourner chez nous. Nous allons y retourner debout.
La Maison Shalom offre des ateliers d'apprentissage aux jeunes réfugiés âgés de 18 à 30 ans.
Avant mon apprentissage dans l'atelier, j'étais ici au Rwanda réfugié comme les autres et je n'avais rien à faire. Après, j'ai entendu l'appel de Maison Shalom qui appelait les jeunes réfugiés à venir apprendre des métiers à la Maison Shalom. Et j'ai répondu à l'appel. J'étais chanceux et j'ai rejoint les autres et j'ai commencé l'apprentissage avec les autres. Nous avons commencé en mai.
Les enseignants sont des réfugiés contactés par Maison Shalom. Ils sont ravis de pouvoir contribuer.
Nous nous réjouissons de cette occasion de partager nos connaissances avec les autres, des connaissances qui contribueront à leur développement personnel.
Le plus important soutien que donne la Maison Shalom est l'espoir.
La Maison Shalom est arrivée à envoyer autant d'enfants à l'école et à leur donner un centre communautaire où ils peuvent venir et, je dirais, comme guérison de mémoire, s'asseoir, pleurer, s'émerveiller, échanger, partager. C'est quelque chose qui redonne confiance que nous allons rentrer bientôt dans notre pays.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Michael Dubinski. Au micro, Claire Moragibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Et notre page Facebook, bien sûr. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA.